Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Aujourd'hui, les histoires de petites voleuses que nous vous racontons sont des vraies histoires d'ados ou de jeunes filles. Trois d'entre elles racontent à Delphine Dilly leur virée, leurs compulsions et comment elles s'en sont sorties. C'est jusqu'à 14h30 dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été, les petites voleuses.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Si on va dans la salle de bain, je pense qu'il y a encore quelques produits, le savon noir... Le masque, l'autre produit pour les cheveux, le shampoing, il y a quand même quelques trucs là qui ont été volés, mais il y a longtemps. Ces trucs-là, je les ai depuis 2-3 ans.
Il y a quelques mois, les gens de mon village m'ont raconté l'histoire de Topette. Topette volait du vin, des outils, des habits et des Paris Match. Son histoire m'intriguait sans doute parce que moi, je n'aurais jamais rien pu voler. Pas même un bonbon à l'épicerie du village. Je pense que ça se serait trop vu sur ma tête.
Il en s'est jamais fait gauler.
Et puis récemment, j'ai découvert que plein de filles, comme moi, elles le faisaient dans les grands magasins. Elles volaient, beaucoup, souvent, et parfois pendant de longues périodes.
Dans la chambre des enfants, il n'y a rien pour le coup. Mais dans notre chambre, si on fait mon placard de frein, il y a encore pas mal de petits bateaux, de trucs que j'avais volés en quantité. Mais là, dans la chambre, tout ce qui est là, tous ces DVD-là, je pense qu'il y en a très peu qui ont été achetés.
Quand Lisa a volé son premier vernis, elle n'avait que 11 ans. Les vigiles l'ont attrapée et ils ont appelé ses parents et après elle n'a plus rien volé. Enfin pendant un certain moment. Et puis elle a rencontré sa nouvelle meilleure amie au lycée à Paris.
Je crois qu'elle volait avec un groupe de copines qu'elle avait au collège, avec qui elle faisait plein de conneries. Et que c'est elle qui m'en a un peu parlé. Mais je pense qu'elle m'a avoué ça et que j'ai dû lui dire « Ah ouais, mais on n'a qu'à essayer, moi je veux bien. Ok, ah ouais, tu faisais ça, mais vas-y, je veux. » Et on allait entre des heures de cours, dès qu'un prof était absent, à l'heure du déjeuner, se faire une petite fringue et des produits de pharmacie super luxe, des trucs que j'avais jamais osé m'acheter, quoi. En fait, cette fille, je l'admirais beaucoup, j'avais vachement de respect pour elle. C'est une fille qui avait surmonté plein de trucs pour une fille de 15 ans. Et si elle le faisait, pour moi, c'était pas qu'il fallait le faire, mais que c'était possible, quoi. Effectivement, je manquais d'argent de poche, alors j'ai pas du tout de problème. J'ai pas été élevée dans un milieu trop difficile. Mes parents nous ont toujours bien nourris et m'ont habillée, m'ont offert ce que je voulais. Enfin, j'ai manqué de rien. Mais je me suis dit, en faisant ça, je vais pouvoir soulager un peu mes parents et m'offrir des trucs parce qu'ils n'avaient pas non plus beaucoup, beaucoup d'argent, et je vais pouvoir m'offrir des trucs que je peux pas m'offrir. Et en fait, c'est parti de là. Je pense que la première chose qu'on a fait, c'était une pharmacie dans laquelle j'ai pris une huile pour le corps Nuxe et des trucs pour les ongles, des trucs que j'avais jamais achetés parce que super cher pour moi, quoi. Et en fait, ça marchait vachement bien, c'était très facile. Elle était petite blonde, à l'air tout sage et très sérieux. Moi, en petite brune, aussi sage. Enfin, je pense qu'on avait toutes les deux des têtes d'enfants de cœur pas du tout soupçonnées, quoi. Enfin, on n'a jamais été attrapés. On allait dans les pharmacies, on repartait avec 200 euros de produits et tout le monde nous disait au revoir avec des grands sourires. Du coup, on le refaisait. J'ai jamais eu vraiment peur d'aller en prison, peur de que ça soit très grave. On prenait pas beaucoup de risques, en fait. On faisait ça, donc c'était des Gap, des H&M, des Monoprix, des grandes chaînes toujours, mais dans des petites rues. On allait rue d'Auteuil, rue de Passy, ce que j'appelle les petites rues, dans les quartiers tranquilles où je pense qu'il y a peu de vols et que les vigiles sont pas présents dans toutes les boutiques. Et pendant des années, on allait voler chez Gap. Il y avait même pas de vigile à la sortie, quoi. Il y avait rien. À Boulogne, dans les coins tranquilles de l'Ouest, où on était vus comme des petites jeunes filles sages et on était à peine soupçonnées. Quand on partait voler, on se faisait toutes les boutiques, pharmacies, fringues, on volait de tout. Mais elle, en rentrant, elle était fière de son butin. Mais moi aussi, hein, je regardais beaucoup le butin et j'étais contente de ce que j'avais. Je regardais, c'était cool, ouais, une crème, deux crèmes. On oublie en fait quand on vole beaucoup. C'est-à-dire quand on passe l'après-midi à voler, on se retrouve avec 60 trucs dans son sac. Du coup...
T'es sérieuse là, 60
non,
trucs 60,
non. Non, mais 15, 20. On s'est fait des naturalia à remplir des sacs à dos, hein. On a même fait un truc, on allait même dans une épicerie de luxe, on remplissait les cabas et on sortait sans payer. Mais parce qu'on pouvait croire qu'on était passé aux caisses. Donc là, on ressortait avec plus que 60 articles puisqu'on avait fait nos pleins de courses de ouf, foie gras, poisson. Et là, on l'a fait souvent jusqu'à ce qu'on nous prenne. En fait, l'histoire de ma copine, c'est qu'elle a perdu un parent très jeune et elle a une espèce de philosophie. De toute façon, on va tous mourir. Enfin, la vie, c'est pas grand-chose, quoi. Il y a un truc... Il n'y a pas mort d'homme de voler dans un endroit qui se fait des millions de thunes en fabriquant mal et en revendant tout 20 fois plus cher. Enfin, il y avait quelque chose de cette relativité face à la vie et tout ça. Et moi, j'ai une trouille pas possible de la mort où je pense souvent qu'on va tous disparaître et que c'est horrible. Mais ce qui me permet dans ce genre de situation... De me dire très facilement, non, mais c'est pas grave, enfin, c'est la vie, quoi. Il y a rien, on va tous crever, tout ça, ça va s'arrêter. Ces gens-là qui se sentent au-dessus de moi à me dire que ce que j'ai fait est mal, ils vont aussi mourir bientôt. Enfin, il y a un truc où j'arrive à vraiment relativiser énormément ce qui est en train de se passer, où je me dis que ça, c'est pas grave, quoi. Je respecte les gens, je fais de mal à personne, je pense pas être quelqu'un de malsain, je pense pas avoir de maladie, hein. Ça fait quand même longtemps que je vole plus de fringues parce que même avant d'avoir mon bébé, j'ai eu peur. J'ai arrêté d'arracher les badges. Avec ma copine, on allait au Galeries Lafayette avec des ciseaux, on enlevait les badges, on prenait des marques de ouf, on mettait tout dans des poches d'autres pantalons qu'on remettait en rayon. Enfin, on avait tout un truc où on s'habillait de la tête aux pieds avec ce qui était volé. Maintenant, ça fait bien 7-8 ans que je fais plus ça, que j'arrache plus un badge. Et c'est un truc qui, pour le coup, me stressait parce qu'il n'y avait pas de possibilité de dire « j'ai pas fait exprès ». C'est plus possible. Du coup, je détestais me mettre dans ces situations-là. Je l'ai peu fait et je volais surtout dans les endroits où il n'y avait pas de badge, etc. Aujourd'hui, maintenant que je vole plus, j'hallucine dans les magasins bio où je fais mes courses, je vois des gens voler. Il y a pas mal de mamies qui volent en fait. Dans les 5 personnes que j'ai dû repérer cette année, il y a 3 petites vieilles quoi, qui cachent des trucs dans leurs manches. J'ai vu une dame enfiler une sauce qui devait coûter trop cher à ses yeux, le foutre dans sa manche. Alors la petite vieille, elle fait ça tout à fait naturellement. Discrète, mais même pas. Et hop, on fait comme si de rien n'était, on reprend son panier. Il y a quelque chose quand même dans l'habitude. Il y a un truc peut-être que j'admets pas parce que je le raconte comme si ça n'existait pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui existe. Dans la facilité, il y a un truc, quand c'est très facile, j'arrive à me dire, ouais, bah, ça me fera ça d'économiser, je pourrais mettre de côté le reste. C'est vrai. Quand il n'y a aucun risque, quand c'est easy et que je sens que personne ne me voit et qu'il n'y a pas de risque à prendre, je me dis, bah tiens, oui, je vais le voler. Parce que ça coûte un peu cher et que vu que je peux le prendre et que personne ne me voit, bah, je le prends.
France Culture, les pieds sur terre.
Je suis dans ma vie quotidienne, je fais une chose ou une autre, et puis tout d'un coup, l'idée me vient. Ah, il faut que je vole quelque chose. Et alors là, c'est un mélange d'excitation positive et négative. C'est « Ah oui, j'ai envie de voler » et en même temps « Merde, non, si je me fais prendre, ça va être horrible ». Donc c'est un mélange d'excitation et de peur. Et l'excitation prend le dessus, je me déplace dans un lieu exprès pour voler, j'arrive dans le magasin, l'excitation est à son comble, je me dis « Ok, qu'est-ce que je vais voler ?» Alors des fois, j'ai bien sûr la petite excitation de « Ah, ça, je vais l'avoir ». Mais l'excitation du vol, de l'action, est au-dessus de l'objet en question. Et je fais l'action de voler, donc je cache l'objet. Je suis hyper excitée tout le long, en fait. Et arrivé aux portes de sortie, là, c'est plutôt la peur qui prend le dessus. Et j'ai peur, mais l'excitation me pousse à continuer. Je me dis, bon, bah, advienne que pourra, en fait. Je m'en fous un peu, finalement. Et donc, je vole, je passe les portes et ça sonne pas. Et là, une pression redescend, mais je suis trempée, hein, je pue des dessous de bras, c'est une horreur complète, quoi. et l'excitation redescend et je me dis bon bah c'est bon, je suis sauvée et je me dis quand est-ce que je recommence. Tout de suite je pense à la prochaine fois.
J'ai retrouvé Laetitia dans un café de Saint-Denis en banlieue parisienne. Il faisait froid dans cette véranda. Et puis elle m'a raconté comment tout a commencé.
J'avais environ 12-13 ans et je me souviens que la plupart de mes vols se sont passés à l'étranger parce que j'avais dans mon imaginaire l'idée qu'on ne pouvait pas être pris à l'étranger si jamais qu'il ne pouvait rien se passer parce que d'une part, je pouvais faire semblant que je ne comprenais rien à la langue et d'autre part, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils ne pouvaient pas appeler mes parents, les flics, j'imaginais mal pour une petite fille. Donc du coup, j'étais absolument désinhibée et j'ai vachement volé en Allemagne pendant mes voyages scolaires et je volais des Diddl. À l'époque, c'était la mode des Diddl, c'était ridicule. Et je volais des Diddl, des peluches, des agendas. Voilà, donc du coup, je me sentais un peu surpuissante et intouchable. Et après, j'ai volé de plus en plus, donc ça, c'était au collège. Et j'ai énormément volé au lycée. Je pense que j'ai eu un épisode kleptomane vraiment important au lycée parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Et c'était complètement compulsif. Je savais que c'était dangereux, je savais que j'allais finir par me faire prendre, mais ce n'était pas grave. J'y pensais pas, je pouvais pas me retenir en fait. J'ai même regardé des méthodes de vol sur internet, j'ai voulu me procurer des aimants démagnétisants, enfin j'ai eu toute une stratégie autour du vol qui s'est faite, et je demandais autour de moi, est-ce que t'as déjà volé, comment tu fais? Ah ouais, ah, putain tu fais ça, moi j'oserais pas, moi c'est plutôt... ça a jamais été des gros trucs, j'ai toujours eu quand même un peu peur de me faire prendre. Et donc j'ai commencé de plus en plus à voler au lycée, et j'ai volé mes proches. Et j'ai commencé à voler mes proches. Je me suis rendu compte que là, il y avait un souci, mais je ne pouvais pas m'arrêter non plus. Bah, évidemment, quand j'ai commencé à piquer aux autres, parfois même chez les autres, à des soirées auxquelles j'allais, je ne connaissais pas la personne qui habitait là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Parce que pour me rassurer, quand je volais au gros groupe, je me disais « Ah, mais c'est bon, pour eux, c'est rien, quoi ». Et là, je ne pouvais plus me rassurer. Il n'y avait plus possibilité de se rassurer.
On peut quand même considérer que c'est une drogue, quoi.
Ah, mais c'est complètement une drogue. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, parce que je suis sûre que le jour où je commence, mais je ne m'arrête pas. Je suis une personnalité de l'extrême, en fait. J'aime bien vivre toujours dans l'extrême. Les choses doivent être drôles, amusantes. J'aime bien avoir peur. Et je pense que c'était aussi lié à ça. Je pense que c'est en fonction des personnalités aussi. Mais c'était lié beaucoup à un mal-être. J'avais besoin de combler un vide, je pense. J'étais dans une période pas facile. Et souvent, le week-end, je buvais trop, jusqu'à l'évanouissement. J'étais un peu dépressive, je pense. Mais parce que c'était une période adolescente et que c'est pas facile. Et je pouvais pas m'en empêcher. Je montrais mes trophées à mes copines, mais en disant « je l'ai acheté ». Jamais je disais « je l'ai volé ». « Ah, regarde ce que j'ai, je me suis acheté un vernis la semaine dernière. Ah, il est cool, tu me le prêteras ? Ouais, ouais, pas de problème. Tiens, même, je te le donne. » Parce que je m'en fichais. Mais c'est quelque chose, c'était un blocage, je pouvais pas en parler. J'avais vraiment honte. C'était tabou. Et la journée, parfois, j'y pensais, j'étais mal. Je me disais « putain, j'ai déconné, quoi. Pourquoi je fais ça ? Je comprends pas. Ça sert à rien, parce qu'en plus, j'ai même pas des trucs qui me font plaisir. » Pourquoi je fais ça? Et puis, une fois que cette honte était là, était passée, et que je me retrouvais dans la rue, et que tout d'un coup, j'avais l'idée de génie d'aller voler, bah, je repensais plus à la honte, je repensais plus à mon mal-être, et je me disais, ah non, il faut que j'aille voler. C'était une pulsion. Inexplicable.
France Culture, les pieds sur terre.
Et donc les choses se sont déroulées comme ça, jusqu'au moment où je suis allée voler dans un supermarché pour 108 euros. Je m'en souviendrai toute ma vie de ces 108 euros. Il était environ 21h, au champ fermé vers 21h30, 22h à l'époque, je me souviens plus vraiment. Et puis je devais aller retrouver des copines. Et là, une pulsion me vient, l'envie de voler. Et j'envoie un message à mes copines, je dis « bon, je serai un peu en retard, m'attendez pas, je vous rejoins ». Et là, je file à Auchan, j'habitais juste à côté en fait. Je me balade dans les rayons, et donc je tombe sur les cosmétiques, et je me dis « bon bah, allez, hein, ce sera ça ». Et je commence à prendre plein de trucs dans mon panier en faisant genre j'essaie de choisir, alors qu'en fait je regardais même pas ce que je prenais, hein. c'était une pulsion. Dans ces cas-là, t'es aveugle en fait. C'était comme ça que ça se passait, c'était que j'étais complètement aveugle et c'était juste le fait de voler qui m'intéressait, pas du tout ce que je prenais. Et je me balade dans Auchan, je me dis bon, je vais faire genre, je fais un peu de course, donc je me prends des Malteser, ce que je voulais payer parce que ça allait être mon alibi. Et je me retrouve au coin des aliments pour chiens et chats. Et selon moi, il n'y avait pas de caméra. Je me dis, non, mais là, c'est bon. Je regarde un peu à droite, à gauche, en mode discret. Non, c'est bon, je peux déballer mes trucs ici. Je commence à enlever tous les emballages. J'étais méga stressée. Puis là, il y a un mec qui arrive. Et je me dis, oh merde, c'est un vigile. Et il me dit, excusez-moi, je cherche des aliments pour chiens. Vous connaissez un peu ou pas? Et je dis, ah non, désolé. Et j'avais la gorge nouée. Je dis, non, désolé, je sais pas. En fait, je pense que c'était vraiment un vigile. Et qui essayait de voir ce que je faisais. Et moi, j'avais fini à ce moment-là. J'avais tout foutu dans un coin. J'avais foutu les emballages dans un coin et j'avais tout mis dans mon sac. Et donc, je repars complètement stressée. Mon Dieu, je crois que c'est un vigile. Bon, je sais pas trop et tout. Et en fait, ce que j'ai oublié de raconter, c'est que j'étais déjà venue la veille chez Auchan. J'avais déjà volé des trucs et il m'était rien arrivé. Je me suis dit, c'est une aubaine. J'y retourne le lendemain et je prends plus. Parce que je me suis pas fait prendre. Donc, c'est que je pense que je dois avoir la bonne stratégie. Et donc, je mets mes Maltesers sur le tapis déroulant, et là, je vois un vigile de loin qui, mine de rien, me regarde. Et j'ai capté tout de suite, je me suis dit, merde, je vais me faire prendre. Et bien, j'ai pas réussi à faire demi-tour, j'ai pas réussi à ouvrir mon sac, à enlever les trucs, et puis à payer mes Maltesers, et puis à dire, bah non, j'ai rien dans mon sac, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas réussi. Et donc, j'y suis allée jusqu'au bout, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je me ferai prendre, ou j'ai essayé de me faire croire que j'allais pas me faire prendre et qu'en fait c'était mon imagination. Parce que dans ces cas-là, on est parano aussi, hein. On a peur de tout le monde, on se dit, ah bah lui il m'a vu, ou lui c'est un vigile, alors que pas du tout, ça se trouve le mec c'était vraiment un vrai mec, quoi. Je saurais jamais. Et donc j'arrive, je paye mes Maltesers et je sors, je ne sonne pas, mais un vigile s'avance vers moi et me dit, mademoiselle, suivez-nous s'il vous plaît. Il m'amène dans une toute petite salle, déjà très flippant le truc. Il y avait que des mecs, et puis ils me disent, bon, bah, ouvrez votre sac. Et là, je commence à pleurer. Et très froid, ils me disent, bah, soit vous payez maintenant en liquide, soit on appelle le commissariat. Et j'avais pas de liquide, et c'était 108 euros quand même, donc c'était pas rien. Et donc ils ont appelé le commissariat, les flics sont venus me chercher, moi j'ai essayé de leur dire, mais je leur ferai plus, j'ai compris la leçon. Bon, bah, bien sûr, ça a pas marché. Et en fait, le chef des vigiles m'a dit, mais on vous a vu, mademoiselle, hier soir, mais il y avait un plus gros poisson. Et donc on vous a pas chopé parce qu'il y avait plus gros que vous. Mais on s'est dit que vous alliez revenir. Et du coup, quand on vous a vu entrer dans le magasin, on vous a suivi à la caméra. Et voilà, il faut jamais récidiver. Et donc on m'emmène au commissariat et on m'assoit sur un banc. J'étais là avec mes baskets Converse, enfin ridicule. Et puis on m'a laissé là longtemps. Hein. Mais personne, tout le monde s'en foutait de moi. J'étais la moins que rien qui a fait une petite connerie. Et puis mon père est arrivé, je dirais, 3 heures plus tard. J'ai été convoquée quelques semaines plus tard au commissariat de Bobigny. Et on m'a fait signer un papier selon lequel il fallait plus que je recommence, sinon la récidive, ça pouvait être grave. Et ça m'a calmée, ça m'a complètement calmée. J'ai plus jamais volé après. Quelques fois. Il y a ces dernières années, mais des petits trucs qui me faisaient chier, ça me faisait chier de les payer. C'était plus oh non, c'est bon, c'est trop cher, hein, allez. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui si on m'avait pas chopé. Et d'ailleurs, j'essaye de ne pas récidiver parce que j'ai peur de repartir dans l'extrême et de commencer à voler tout et n'importe quoi. Non, je me questionnais sur ma situation en tant que voleuse. Je volais à cause d'un mal-être, et donc pour mettre un mot dessus, je disais kleptomane. Mais ça, je l'ai dit plus tard, en fait. Sur le coup, je réalisais pas trop. Et finalement, j'étais peut-être pas kleptomane, parce que je pense que pour être kleptomane et arrêter d'être kleptomane, il faut faire un travail sur soi, ce que je n'ai pas fait. Mais comme il faut mettre des mots sur les choses, et que c'était lié à un mal-être, que le vol était lié à un mal-être, et que la kleptomanie, c'est ça, j'ai mis ce mot-là sur moi. Après, je suis pas spécialiste, j'en sais rien, mais c'était pas pour le plaisir. Ça me faisait plaisir sur le coup, mais finalement c'était affreux, complètement affreux. Peut-être qu'inconsciemment je voulais qu'on m'attrape, parce que j'en avais marre d'être dans cette souffrance aussi. C'était horrible pour moi d'être esclave de ces pulsions. Il m'a fallu un choc pour arrêter. C'est vraiment Auchan qui m'a sauvée pour le coup. Voilà.
Si Laetitia agissait seule, Clémence, elle volait surtout avec une bande de copines. Pour elle, c'était comme un sport, voire un travail.
On a commencé, je me rappelle que notre première cible, c'était Gap. Donc on était 4 et parfois même 5. Et il n'y avait pas de chef, il y avait juste... on voyait clairement qu'il y avait des débutantes et puis des filles qui, voilà, qui étaient déjà aguerries, quoi, enfin, qui savaient de quoi, comment ça se passait. Mais il se trouve qu'on était assez fortes chacune, assez rapide, assez voilà, c'est fluide quoi. On se perdait pas en tergiversation. Enfin, on savait, c'était clair, on savait où on allait. Et ça prenait pas beaucoup de temps. En fait, ce qui nous amusait, c'est le peu de temps que ça prenait. On rentrait, on ressortait, c'était très efficace. On était souple, on savait ce qu'on faisait. On prenait jamais de risques inconsidérés. Donc il y a ça aussi. Et une fois qu'on a commencé en groupe, on le faisait aussi toute seule et on se narrait nos exploits. Voilà, moi j'ai fait ça, tout à fait ça. Donc il y avait un truc aussi de mini concours. On s'admirait mutuellement. Chacune de notre côté, on faisait des petits trucs mignons. En bande, c'est devenu un peu plus organisé et c'est un peu plus costaud dans les larcins. Voilà, c'est un peu plus. Ouais, un peu plus spectaculaire. Et ça, on se gargarise un peu de ça, ouais. Je me rappelle d'une fois, on volait toute une ligne de cosmétiques entière, du soin pour les yeux ou à la lotion, enfin vraiment toute la gamme en entier. Voilà, c'est des performances, on se dit, bon, ça a un peu de gueule. Mais sinon, des manteaux aussi, ouais, des manteaux qui, parfois, ça arrive très rarement, qu'ils oublient de mettre des bips. Et donc, il est arrivé que parfois, on chasse les manteaux qui n'avaient pas de bip et repartir avec un manteau sur son propre manteau. Là aussi, on saluait l'exploit de celle qui arrivait à le faire parce qu'on se disait, waouh, c'est parce que c'était des gros trucs, voilà, des gros trucs énormes qui, si on ne se fait pas choper, il y a quelque chose. Et là, il y avait une grosse, grosse peur quand même. Quand on est en groupe, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va voler. On ne se dit jamais, tiens, on va dans telle boutique pour récupérer ça. C'est que immédiatement, on fait un tour d'horizon et qu'on se dit, waouh, ça tue. Et tu vas voir que je vais l'avoir. Et soit on attend notre copine sur place, soit à l'extérieur. Mais en général, on reste avec elle. Tout se passe dans le regard, tout ça. Et qu'on a compris que, enfin, dès qu'on la voit sortir du magasin, on sait qu'elle a fait son truc. Et voilà, on tremble pour elle ou pas. Et on tremble pour nous, parce qu'en général, on vole en même temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a toujours une qui déclenche un peu en disant « Ah non, mais ça, il me le faut. » Mais tous les magazines qu'on achetait, et on en achetait énormément. Et on se disait, bon, à un moment donné, quelqu'un qui travaille normalement et qui gagne sa vie normalement, peut pas s'acheter tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? Ils veulent que... Enfin, voilà. On prenait un peu ça bêtement comme une déclaration de guerre, cette nouveauté perpétuelle. Enfin, voilà. Et donc, on arrivait dans les grands magasins comme si on était en guerre un peu. Tu veux nous provoquer ? Ben, regarde ce qui va se passer. Et donc, voilà, on est arrivé sur notre terrain. Et voilà, on n'avait pas... Je crois qu'on n'avait pas de problème de morale à cause de ça aussi. C'est qu'on se disait, mais... En volant, on a exactement le même pouvoir d'achat que celles qui s'embêtent à travailler. C'est très...
voire plus.
Ouais, c'est ça. En tout cas, il y a certaines filles qui nous agaçaient, pour être honnête, celles qui se prenaient au sérieux, avec justement de suivre à la lettre ces nouveaux habits, ou enfin de les porter avec une discipline de faire comme ça. Et donc, il y avait un truc un peu narquois là-dessus chez nous. Et en fait... Bon, avec le recul, évidemment, c'est nous qui étions ridicules, mais c'est comme ça. Et sinon, les autres qui ne pouvaient pas se l'offrir, on disait, bah, regarde, fais peut-être comme nous, quoi. Il y a eu un moment où, comme on le faisait,
faisait un peu quotidiennement. Et voilà, oui, clairement, on était un peu blasés. Il n'y avait plus de... Il n'y a plus spécialement d'enjeu à faire ça. C'était vraiment pour l'objet en lui-même. C'est pour ça qu'il y avait moins cette notion de kleptomanie que de vraiment l'objet qu'on a choisi, on le veut, on l'a, et je vais avoir ce que je veux, quoi, d'une façon ou d'une autre. Passé, je sais pas, 33 ans, enfin... Et puis, alors après, quand on a un enfant, c'est carrément... C'est pas possible. Enfin, voilà. Déjà, l'idée de se faire attraper alors qu'on est enceinte, ça, c'est inconcevable. De faire, je sais pas, moi, l'idée de pouvoir faire sursauter mon enfant alors que j'étais en train de voler, ça, je pouvais pas supporter ça. Donc, jamais je l'aurais fait. Et puis après, voilà, cette chose un peu où on se dit, ah ben non, je vais pas voler alors que j'ai un enfant. On tombe dans des trucs... qu'on raillait, je sais pas, 10 ans plus tôt, on se disait, ben, et alors, quoi, y a pas de limite, en fait, si bien sûr qu'il y a des limites et il y a des prises de conscience aussi.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Quartier d'été et Les Petites Voleuses, un reportage de Delphine Dilly réalisé par Marie Placet et diffusé pour la première fois le 27 janvier 2015. Merci à Lisa, à Clémence, à Laetitia, à Lucia, à Valentina, à Susanna, à Patrick et à Raphaël. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux bien connus. Nous avons une page Facebook, un compte Twitter. Vous pourrez partager nos émissions, les commenter ou bien suivre notre travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez ainsi nous écouter quand vous voulez et où vous le souhaitez.